C'est rendu presque banal prendre l'avion de nos jours. Non seulement la quantité de vols qui est offerte, mais les distances que l'on peut couvrir, c'est inouï. Au moment même où j'enregistre ceci, s'il n'y a pas de retard, un avion s'apprête à décoller de l'aéroport Montréal-Trudeau à destination de Dubaï aux Émirats arabes unis, 10 600 km dans les airs sans escale, une distance qui aurait été impossible à couvrir il n'y a pas encore si longtemps. On en oublie presque que l'aviation commerciale a commencé réellement dans les années 1920, donc ça fait un siècle à peine, et que le transport aérien a balbutié pendant ses quatre premières décennies d'existence. Il n'est réellement entré dans l'âge adulte qu'avec la mise en service des premiers Boeing 707 en 1958. Il y a vraiment eu un avant et un après Boeing 707 qui a lancé ce que les anglophones appellent le « jet age », donc l'ère de l'avion à réaction. Avant, l'aviation commerciale, c'était assez modeste comme entreprise. Les avions à piston et à hélice qu'on utilisait étaient lents, bruyants, pas très confortables pour les passagers, ne pouvaient pas transporter beaucoup de monde et ne pouvaient pas couvrir de grandes distances. Un des appareils qui s'est le mieux vendu et a été le plus utilisé pendant la période des avions à hélice, c'est le DC-3 de l'avionneur américain Douglas. Mis en service en 1936, le DC-3 pouvait vous mener de New York à Los Angeles en 18 heures avec seulement 3 escales et il pouvait contenir de 20 à 30 passagers dépendant des configurations. Pour ce qui est des vols intercontinentaux, il y a la Pan American World Airways, devenue plus tard la fameuse Pan Am et ses non moins fameuses agentes de bord, qui va lancer des services de passagers des États-Unis vers l'Europe et l'Asie à la fin des années 1930. On utilisait pour ce faire des hydravions fabriqués par la compagnie Boeing. On pouvait franchir la distance de l'Angleterre à New York avec des arrêts en Irlande, à Terre-Neuve et à Shediac, au Nouveau-Brunswick, pour faire le plein. Et côté Pacifique, on pouvait faire la traversée en 5 jours avec 4 escales dans des avions qui offraient une salle à manger, des cabines avec des lits. Évidemment, on ne demandait pas aux passagers de dormir 4 nuits dans des sièges inclinables. Bref, avant la Seconde Guerre mondiale, pour ce qui était domestique, vous étiez mieux de prendre le train et pour les voyages océaniques, le paquebot demeurait la meilleure option. La guerre sera évidemment un catalyseur de recherche et de développement dans le domaine aéronautique. On arrive après 1945, les avionneurs qui avaient mis leurs activités civiles en pause vont se remettre au travail, forts de toutes les avancées technologiques acquises pendant le conflit. On a aussi un gros surplus d'avions qui avaient été fabriqués pour des besoins militaires auxquels on va vouloir donner une seconde vie dans le transport de passagers. Combiner ça à la prospérité de l'après-guerre, tout est en place pour qu'on puisse donner un essor à l'industrie touristique et encourager les gens à voyager en avion. À la fin de 1945, l'avionneur Lockheed met sur le marché, pour l'utilisation civile, un appareil pressurisé nommé le Constellation qui bat tous les records de vitesse, notamment pour la traversée de l'Atlantique. 15 heures pour aller de New York à Londres et on pouvait souvent ne faire qu'un arrêt à Terre-Neuve, pas besoin de refaire le plein arrivé en Irlande. En 1953, Douglas lance le DC-7 qui va permettre à American Airlines d'offrir le premier service régulier New York-Los Angeles et Los Angeles-New York sans escale et on promettait de le faire en 8 heures. Même si les appareils rencontraient souvent des problèmes de moteur en chemin, on poussait vraiment la mécanique au maximum pour réussir à faire le trajet en aussi peu de temps, selon les standards de l'époque, et on n'était pas tout à fait rendu là. Ce qu'on ne savait pas, c'est que l'ère des moteurs d'avion à piston mus par de grosses hélices tirait à sa fin. Un an avant le lancement du DC-7, la British Overseas Airways Corporation, la BOAC, a mis en service des avions Comet, fabriqués par la compagnie britannique The Havilland. Le Comet, c'était le premier avion civil à utiliser le moteur à réaction, dont la combustion interne produit un jet de gaz qui donne la poussée à l'appareil. L'avion était mal conçu et il y a 3 Comets qui ont subi des accidents causant des pertes de vie en moins de 2 ans et tous les appareils ont été cloués au sol. Mais le ballon échappé par The Havilland a été repris par une compagnie qui était alors un joueur mineur dans l'industrie de l'aviation civile. Boeing faisait surtout du matériel militaire. Chaque modèle d'avion de passagers que l'entreprise avait développé depuis sa création s'était avéré déficitaire. Alors que les autres compagnies qui faisaient du militaire et du civil ont fait la transition en douceur lorsque les contrats de l'armée ont arrêté de rentrer, Boeing a dû faire des mises à pied massives. Le carnet de commandes était vide. Le président de la compagnie, William Allen, s'est dit qu'il n'avait rien à perdre. Il a décidé de jouer son va-tout. On a développé un avion à réaction sans avoir aucune commande en attente, un investissement de 16 millions de dollars, énorme pour l'époque. Si on s'était planté, il est probable que Boeing n'aurait pas survécu. On a repris certains éléments de design des bombardiers à réaction que la compagnie avait fabriqués pendant la guerre, notamment les ailes en flèche. Jusque-là, les avions avaient les ailes presque perpendiculaires au fuselage. Là, on leur donne un angle et les moteurs sont placés dans des nacelles sous les ailes. D'ailleurs, si vous regardez des photos de Boeing 707 et que vous comparez ça avec les appareils qu'il a supplantés, c'est vraiment un avion moderne. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on utilise pour voler encore aujourd'hui, plus de 6 décennies plus tard. On avait un bon produit. Encore fallait-il convaincre les compagnies aériennes d'en acheter, surtout après l'échec du Comet et au coût unitaire de 4,3 millions de dollars en argent de 1955, les acheteurs potentiels se faisaient tirer l'oreille. Finalement, la première compagnie qui s'est montrée intéressée par le nouveau jet, c'est la Pan American, celle-là même qui faisait des liaisons intercontinentales avec des hydravions de Boeing 15 ans plus tôt. On a commandé 20 707 et on a également commandé 25 exemplaires d'un appareil encore sur la planche à dessin, le DC-8 de la compagnie Douglas, qui allait devenir le grand concurrent du 707 dans cette première génération d'avions à réaction. Mais avant de passer la commande, on a demandé à Boeing de faire de nombreuses modifications, notamment d'élargir le corps de l'avion pour qu'on puisse faire des rangées de 6 passagers, 3 de chaque côté de l'allée centrale. Ça aussi, c'était nouveau. Normalement, on avait 2 passagers de chaque côté de l'allée, ce qui fait que la première version du 707 pouvait transporter entre 160 et 190 passagers passagères, alors que même les gros avions à hélice peinaient à en asseoir 100. Le Boeing 707 est entré en service en octobre 1958 et ceux qui doutaient vont vite devoir se rendre à l'évidence. L'avenir appartient aux avions à réaction. Le 707 est supérieur aux avions à hélice à tous les points de vue. Il était plus gros, il transportait plus de monde, il était plus rapide, moins bruyant, plus confortable, moins coûteux à opérer. Je vous disais un peu plus tôt que les avions à hélice des années 50 mettaient 8 heures à traverser, de peine et de misère, les États-Unis, de New York à la Californie. Le 707 peut le faire en 5 heures. Et le coût du billet aller-retour dans les premières années de service du 707, 231 $, un gros montant à ce moment-là, mais c'était presque 25 % moins cher qu'à bord d'un ancien modèle d'avion. Donc le choix pour le consommateur et pour les compagnies aériennes était facile à faire. Près d'un millier d'appareils Boeing 707 vont trouver preneur. J'ai vu différents chiffres, mais c'est dans ces eaux-là. En fait, le 707 s'est vendu à peu près autant d'exemplaires que tous ses concurrents directs réunis. Le DC-8, arrivé sur le marché un an après son rival, n'a pas mal performé, mais à environ 560 exemplaires, il est loin derrière. La domination de ce modèle a été brève. À la fin des années 1960, on produisait déjà presque plus de 707, dépassés par d'autres appareils plus gros, moins bruyants, qui consommaient moins de carburant. Et Boeing n'a pas fait une fortune avec le 707. La compagnie était vraiment très accommodante avec les clients. On était toujours prêt à effectuer des modifications pour convenir aux besoins spécifiques de telle ou telle compagnie. Mais l'appareil a ouvert la porte aux autres succès de Boeing par la suite. Le 727, le 747, qui a également été une révolution dans l'industrie, ça a aussi ouvert la porte à l'infâme 737 Max, qui est en train de ternir l'image de cette compagnie qui a pendant si longtemps été à l'avant-garde de l'industrie. Il y a une expression qui revient souvent et dont on voit souvent des images, surtout si vous fréquentez des sites ou des pages web où on carbure à la nostalgie. On parle de « Golden Age of Flying », l'âge d'or du transport aérien. Une époque où c'était prestigieux, où c'était glamour de prendre l'avion, Alors qu'aujourd'hui, entre les mesures de sécurité dans les aéroports, le fait qu'on est tassé comme des sardines et que c'est tout juste si on ne nous fait pas payer pour un verre d'eau, on a évacué pas mal tout le plaisir du transport aérien. Quand on regarde des films promotionnels de compagnies aériennes des années 1940, 50 et 60, il s'en trouve beaucoup sur YouTube, je vous le recommande, c'est vrai que le coup d'œil est complètement différent. D'abord, tout le monde se mettait sur son 31 pour prendre l'avion, les messieurs en veston-cravate, les dames en tailleur, talons hauts, les rangs de perles, les chapeaux, etc. C'est vrai qu'à ces époques-là, on se mettait sur son 31, peu importe où on allait, ou à peu près. Mais prendre l'avion, c'était une occasion spéciale. On ne prenait pas le premier truc qui se trouvait dans son porte-manteau. Les tenues étaient étudiées. Et les compagnies aériennes se donnaient beaucoup de mal et tiraient une grande fierté du fait d'offrir une expérience à la clientèle, souvent fortunée, qui faisait appel à elle. La qualité du service, la qualité de la nourriture, les agentes de bord qu'on engageait un peu comme on engageait des mannequins et à qui on imposait très souvent des standards de beauté irréalistes, on voit que l'avion, à ce moment-là, compétitionnait avec les grands paquebots de luxe et avec les trains et leurs chics wagons-restaurants. Le vol était réellement une partie du voyage. Puis, les avions à réaction sont arrivés. Les temps de vol étaient plus courts, donc moins de temps pour déployer de grands artifices. Les prix ont baissé, rendant le vol plus accessible, ce qui a fait augmenter la demande. Soudainement, on n'avait plus de place pour les lounges dans les avions. On pouvait utiliser cet espace-là pour mettre plus de sièges sur le marché et on avait des chances de les vendre. L'avion est vraiment devenu un moyen de transport plutôt qu'une activité chic à ajouter à ce voyage qu'on faisait, qui était déjà, plus souvent qu'autrement, une activité chic. Les consommateurs voulaient moins vivre une expérience, ils voulaient se rendre à leur destination le plus vite possible, et les compagnies essayaient de maximiser leurs profits en offrant de moins en moins aux clients. Il y a eu de la concentration dans l'industrie, les lignes aériennes à bas prix sont arrivées, bref, tout ça pour vous dire que l'arrivée du Boeing 707, du DC-8 et des autres avions à réaction, ça a tout changé dans le transport aérien.